toutes et à tous, bienvenue à chacun, à chacune. Vous êtes sur La Route Inconnue, le magazine radiophonique consacré à la poésie, magazine bimensuel consacré à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui, qui se joue aussi. Parce que la poésie se joue grâce, entre autres, à la Caravane des Poètes, animée par Marie Poumara depuis pas mal de temps. On va revenir sur l'historique de la Caravane des Poètes. La Caravane des Poètes a cette particularité de jouer donc sur scène, mais uniquement de la poésie. C'est, je pense, peut-être unique en France, Marie, vous allez me le dire.
Peut-être, bonjour. Mais oui, on a une manière d'aborder la poésie pour qu'elle soit très très vivante. Et on fait même maintenant des spectacles où ce ne sont que des poèmes, mais on n'en dit pas les auteurs au fur et à mesure. Et c'est comme un spectacle, presque comme un spectacle de théâtre. Mais la poésie est au centre de nos vies, de nos cœurs.
Merci de le dire. Je précise qu'en seconde partie mission, vous retrouverez les chroniques de Jacques Morin, de Louis Dubos et de Jean-Claude Touzeil. Nous allons parler de l'histoire de la Caravane des Poètes. C'est une histoire ancienne. Et nous allons reparler de notre ami Henri Ronce, yes, qui est à l'origine, avec vous, du projet.
Oui, oui. Alors, l'histoire ancienne, elle est née avec le 21e siècle. C'est joli en même temps. Elle est née en 2000.
En 2000.
Absolument en même temps que finalement, ou l'année d'après, enfin, à peu près en même temps qu'est né le Printemps des Poètes National, auquel nous sommes liés par la poésie finalement. Donc, effectivement, en 2000, en l'an 2000, nous avions reçu à l'époque une lettre du ministre de la Culture de l'époque qui nous demandait si on avait envie de se joindre à un nouvel événement, hein, une nouvelle fête de la musique, une nouvelle, voilà, qui allait être le Printemps des Poètes, et si on voulait créer quelque chose, nous, compagnie théâtrale à l'époque, si on voulait créer quelque chose dans le domaine de la poésie. Alors je me souviens très bien que Henri Ronce, donc, qui a effectivement créé cette Caravane des Poètes, s'est dit, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Henri, il était toujours très... Et puis il s'est embarqué là-dedans avec un grand bonheur, et nous avions conçu à l'époque un montage de poésie chinoise, ce qui n'était pas forcément le plus populaire qui soit, et ça avait marché extraordinairement. On était à Vernouillé à l'époque et ça avait marché extraordinairement, et ça nous avait même surpris à quel point ce partage comme ça direct, en direct, donc en vivant, en live, du poème par la voix d'un comédien avec le public, ça nous avait même surpris à quel point ça fonctionnait. Et puis on a continué après, ouais. On a continué pour plein de choses, quoi.
Vous aviez déjà une passion de toute façon pour la poésie, Henri Ronce, depuis très longtemps. Il avait travaillé chez Gallimard, il était l'ami de grands poètes, de Queneau, etc. Donc vous aviez, et vous-même, vous étiez une lectrice de poésie sur France Culture, donc c'était déjà là quand même.
C'est ça, c'était déjà là. Ouais, ouais, Henri, il a connu plein de gens. Il a même rencontré Aragon, juste là, quand il était tout petit, lui, enfin tout jeune, et qu'il était lecteur chez Gallimard. Ouais, ouais. Un grand lecteur de poésie, grand lecteur d'ailleurs, pas seulement de poésie, grand lecteur devant l'Éternel. Et oui, moi aussi, on avait... Il y a quelque chose... Je dis toujours que quand j'arrive, parce que c'est pas si évident de bien lire tout seul, je veux dire, quand j'arrive à être concentrée et à lire de la poésie, c'est les moments de plus grand bonheur. C'est quelque chose qui vous remplit comme ça, c'est magique même.
Ouais. Pourtant, vous avez joué d'innombrables rôles avec de grands succès au théâtre, c'est autre chose alors?
Oui, c'est complètement autre chose. C'est un rapport direct avec les gens. C'est-à-dire que le texte ne passe pas par le truchement d'un partenaire. C'est pas du théâtre, c'est pas des dialogues, même si parfois il y a des monologues, mais il y a le quatrième mur. En poésie, c'est... Voilà, tu es en face de moi, je t'adresse un texte, un poème, et tu le perçois, c'est un échange direct. C'est ça qui est fascinant, je trouve. Et même chez des gens qui... Parfois, à la Caravane, on a une action... populaire, entre guillemets, j'y mets des guillemets, mais et il y a des gens qui sont nos spectateurs, qui sont là, mais qui, je sais pas s'ils lisent, non, ils lisent pas de poésie, c'est des spectateurs lambda, et je me souviens très très bien un jour d'un monsieur qui m'a fait un compliment, c'était à Bonneval, un compliment qui m'avait ahuri, pour moi c'est le plus beau compliment, c'était un monsieur, à la fin d'un spectacle, il est venu me voir, il m'a dit, oh, Si j'avais su que la poésie, ça parlait comme ça et que c'était ça, oh là là, je serais venue plus tôt vous voir. Et vous savez, je ne regrette pas d'avoir loupé mon match de foot. C'est un compliment extraordinaire, quoi. Un monsieur qui aurait préféré être au match de foot, peut-être que sa femme l'avait traîné, je sais pas, et il était fou de joie, il était intense, il était... Voilà.
Je pense que vous avez probablement créé une nouvelle génération de lecteurs de poésie, au moins dans la région centre où vous écumez depuis de 18 ans.
C'est ça, peut-être. Alors, lecteur de poésie, je ne sais pas, oui, sans doute aussi, mais c'est vrai que la poésie, elle a besoin de la voix parlée, elle a besoin du chantre, du comédien, quoi, qui l'a fait passer. La poésie, elle est orale aussi, c'est ça qui est beau d'ailleurs.
Ouais, c'est éminemment théâtral, je veux dire, ça peut se prêter à toutes sortes de mises en scène d'ailleurs, vous en êtes pas privé en 18 ans.
Complètement. Là, récemment, on vient de faire un spectacle théâtral, poétique et musical, comme on l'appelle, qui a été mis en scène par Pauline Marot, qui est nouvelle, pas vraiment nouvelle, mais enfin, qu'Henri avait d'ailleurs choisi avant de partir. Et Pauline a mis en scène un spectacle jeune public qui s'appelle Le Petit Cabaret des Rêves. Ce spectacle, il est comme un spectacle de théâtre, mais il n'y a que des poèmes. Simplement, voilà, il s'enchaîne avec un fil rouge qui est le domaine du rêve. Oui, donc c'est une manière sans doute, oui, particulière, différente de faire passer la poésie. Ouais.
Et vous n'êtes pas du tout exclusif à la caramane des poètes. Il y a des poèmes du, je sais pas, du 16e siècle, et puis des poèmes ultra contemporains. Pas de séparation entre les âges, pas de fossé des générations.
C'est ça qui est fantastique, hein, de partir de Sappho dans les temps anciens et puis d'arriver à des poètes d'aujourd'hui comme Valérie Rousseau, Edith Azam. Et cet écart, finalement, je suis pas sûre qu'il soit si grand. C'est sans doute la structure de la phrase, peut-être qui peut changer, parce que les poètes d'aujourd'hui, parfois ils ont une c'est pas toujours, il y a pas de rime, pas forcément de rime, mais il n'empêche que c'est très structuré. Mais on voit pas la structure de la même manière. C'est pas un grand écart finalement, c'est la même intensité.
Et puis il y a aussi des poètes qui s'inspirent de poètes plus anciens. Je me souviens très bien du passage de William Cliff que vous aviez invité au salon Gironde Beauce, hein, dans la mairie de Chartres, qui avait dit qu'il s'inspirait plus. Il faut mieux s'inspirer de son grand-père que de son père. Il expliquait ça.
C'est ça, c'est ça. Peut-être qu'il faut laisser du temps passer pour retrouver les choses. C'est vrai, mais William Cliff, c'est extraordinaire. Très à part en même temps dans la poésie d'aujourd'hui, parce que lui, pour le coup, il y a des rimes, il y a des comptins, des alexandrins, des... mais ce qui est génial dans la poésie d'aujourd'hui, c'est qu'elle foisonne. Alors, elle a sans doute toujours foisonné, mais en tout cas, aujourd'hui, elle foisonne. Il y a des tendances complètement différentes. Il y a aussi des poètes sonores, les poètes visuels, c'est un art complet en fait. Il y a aussi des plasticiens qui sont poètes. Je pense que les frontières ont quand même éclaté en poésie aujourd'hui.
Alors vous avez contribué aussi à faire connaître physiquement les poètes au public. Vous avez confronté de grands poètes, hein, souvent Guy Goffet, Dominique Sampiero, bien d'autres, William Cliff dont on parlait, Julien Blaine évidemment, poète sonore. Vous aimez aussi confronter. Je dirais que c'est plutôt confronter le public au poète, là, tiens.
Vous croyez pas si bien dire, parce que samedi, donc c'est dans pas longtemps, malheureusement c'est pas en Eure-et-Loir, on fait venir à Romorantin, en Sologne, la poète franco-syrienne Maram Al-Masri, qui est vraiment magnifique. C'est une femme qui a vécu des choses absolument terribles, puisque son premier mari, quand elle habitait à Paris, a enlevé son enfant, est parti en Syrie, elle l'a plus jamais revu. Et en même temps, sa poésie, très simple, mais très très simple, c'est des mots que tout le monde comprend, un enfant peut comprendre les poèmes de Maram Al-Masri. Sa poésie raconte donc tout ça et la transcende d'une manière, je sais pas, c'est comme un ange, quoi. C'est comme un ange.
Vous avez parlé de Romorantin, il y a déjà depuis quelques années, enfin ça a commencé je crois à Nohant, le domaine de Georges Sand, un grand salon de l'édition de poésie, ça existe toujours. Hein.
Ça existe toujours, alors ce salon à l'origine c'est Henri Ronce qui l'avait créé à Vernouillet, donc en Eure-et-Loir, à côté de Dreux, c'était en 2001, donc c'est drôlement vieux. Hein.
Jean-Michel Maupois, Julien Blaine...
Bravo, tous ces noms. Ah, il y avait des gens extraordinaires. C'était le premier salon. Et donc, notre vocation, c'est de... Bah, c'était la vocation d'origine. Et puis après, on l'a un peu installé, comme vous l'avez dit, dans le jardin, dans les jardins du Novène de Georges Sand à Nohant. C'était magique au milieu des parfums des roses. Mais sa vocation à ce salon, c'est d'être itinérant. Donc finalement, bah, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas moi, à Chartres, à Châteaudun, à... Je sais pas, on sait pas, à Dreux.
L'édition 2019, ce sera à Romorantin ?
Alors, cette édition 2019, normalement, doit être encore à Romorantin, avec sans doute Alban Gelé, une jeune femme poète qui vit en Maine-et-Loire, qui écrit des textes magnifiques, avec pour base la nature, les animaux, les bêtes. C'est très, très beau.
Vous allez nous en lire quelques-uns tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas dit à nos auditeurs, vous avez accepté de nous dire comme ça en direct, in live, quelques-uns des poèmes de la caravane.
Ouais, avec plaisir, ça va être un bonheur.
Vous brassez à peu près combien de poèmes depuis la création ? Non, ça c'est impossible à répondre évidemment, mais c'est quand même, ça se chiffre en milliers de poèmes sans doute, non ?
Je sais pas, 10 000 ? Je dis ça au pif, hein. Mais ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et puis vous savez, on est dans plusieurs domaines, parce qu'on est aussi dans le domaine de la petite enfance, où on fait passer la poésie à des enfants qui parfois ne savent pas lire. Donc on travaille avec des adolescents, avec des lycéens. Donc finalement, ce sont des poèmes, alors lycéens et adultes, non, peut-être pas, mais c'est des poèmes différents, tout ça. Donc c'est vrai, allez, 10 000.
Ben oui, parce que vous n'oubliez aucun public, les enfants, les adultes, des publics mixtes aussi, parce que vous l'avez dit, il y a des poètes qui sont à la fois compris par les enfants et les adultes.
Complètement, oui. La poésie peut se lire. Je reprends l'exemple de Maram Al-Masri. Alors, c'est vrai que les sujets sont absolument terribles, puisqu'elle parle de la Syrie aujourd'hui, mais un enfant peut comprendre son poème. À son niveau, c'est ça qui est magique dans la poésie. Et puis parfois aussi, et ça c'est la plus belle chose peut-être, on ne comprend pas forcément tout, on peut pas forcément l'expliquer, mais en tout cas il rentre dans notre corps.
Ça se comprend avec le ventre, avec le cœur, avec ouais. La peau.
Avec la peau, avec la pluie qui tombe dessus, avec les saisons, avec les sensations, c'est sensuel, c'est vivant, c'est à plein de niveaux, hein. c'est vrai.
Quelques événements à venir.
Alors, en décembre, on se consacre exclusivement à la petite enfance, au tout petit, avec une création très jolie, c'est un peu mon bébé, qui s'appelle la boîte à merveilles. Et dans cette boîte à merveilles, notre défi à la caravane, cette boîte à merveilles est jouée par 2 comédiennes, moi je mets en scène, et notre défi à la caravane, c'est de faire... de jouer avec le livre, même pour des enfants qui ne savent pas lire. Donc le livre est présent, il y a un joli décor d'une boîte qui est comme une petite bibliothèque avec plein d'animaux dedans, plein de livres, etc. Et on interprète des albums qui sont théâtralisés là aussi, mais en même temps que les comédiennes jouent l'histoire, le livre est présent et on en tourne les pages. Et moi, j'ai souvent vu des tout petits enfants, hein, allez, 2 ans, qui suivent le texte que disent les comédiennes sur le livre. Comme s'ils savaient lire. C'est magique. Et c'est comme si, à travers la voix des comédiennes, ils arrivaient à voir le texte sur le livre. Ils ne peuvent pas le comprendre, bien sûr. Mais voilà, c'est...
Les maîtres d'école vont vous remercier. D'ailleurs, vous avez travaillé depuis... vous travaillez depuis de nombreuses années avec les écoles. Je me souviens, par exemple, du séjour de Michel Beignet, le fameux auteur du Rap des Rats, à Chartres. Il y a eu tout un travail autour de son œuvre avec les enfants de l'école François Villon. C'est des moments qu'on n'oublie pas, des moments que les enfants ni les profs ne n'oublient pas.
Ah ouais, c'est des souvenirs magiques, vraiment magiques. On a fait aussi là, à Châteaudun, tout un travail autour de la maison d'édition Rue du Monde avec 10 classes, donc voilà, 250 enfants. Et ouais, c'est des expériences importantes. Parce qu'aussi, les enfants participent, c'est-à-dire qu'on les fait travailler à la caravane des poètes, on les fait travailler à l'interprétation de poèmes, donc ils sont aussi acteurs. C'est des relations passionnantes avec les enfants. Parce que les enfants ont, ça tout le monde le sait, moins de frontières que nous, les grands, nous, les adultes. Et donc ils attrapent la poésie à pleine main et voilà, il leur parvient, ce qui leur parvient à leur niveau, ce qu'ils comprennent. Mais ils comprennent avec leur sens.
D'autres rendez-vous à venir?
Alors, d'autres rendez-vous à venir, donc cette boîte à merveilles qui va être partout en décembre en Eure-et-Loire. Et puis, on va participer le 19 janvier prochain à Chérisy, un petit village près de Dreux, à la première nuit de la lecture. Vous savez, alors, la nuit de la lecture au niveau national, elle a 3 ans, je crois. Mais nous, à la Caravane des Poètes, ce sera la première année. Donc, on va aller de nuit dans la bibliothèque de Chérisy, sans lumière électrique, avec des torches, des guirlandes, des je sais pas quoi, avec des livres, et on travaillera avec le public qui sera là autour du livre et de la lecture, et du plaisir surtout, du plaisir de la lecture.
Alors, vous savez, cette émission de la Route Inconnue, elle est écoutée un peu partout en France grâce à Internet, et même au Maroc, rendez-vous compte. Je voulais savoir, est-ce que ces spectacles, ils peuvent s'exporter ailleurs que dans la région centre?
Ah oui, moi je veux bien aller au Maroc. Je veux bien aller au Maroc, jouer les spectacles. Oui, alors bientôt, au mois de mars 2019, on va créer un spectacle qui s'appellera Éclat de beauté, avec 4 artistes, un pianiste, une chanteuse, 2 comédiennes. Et ce sera sur la thématique du Printemps des Poètes, qui est la beauté. Vaste thème. Et on jouera ce spectacle à la fois à la médiathèque de Châteaudun, ça sera le 20 mars, et on le jouera aussi en Touraine, à Vouvray. Alors, comme ça, on pourra boire du vin de Vouvray en même temps. Donc, on va dans pas mal d'endroits, oui, dans toute la région centre. Là, récemment, on a joué dans l'Indre un spectacle autour de la poésie de la résistance, puisque c'était absolument extraordinaire ce qu'ils ont écrit, ces poètes de ce temps-là. Et sinon, il y aura aussi un rendez-vous important pour l'Eure-et-Loire et pour nous, qui est l'heure du poème.
Ah oui, j'allais en parler, l'heure du poème, c'est devenu un rendez-vous incontournable chaque année. Comment ça marche? On en reparlera de toute façon dans une autre émission. Mais déjà, dites-nous comment ça fonctionne, ça.
Alors, ça sera d'abord le samedi 9 mars. Donc, rendez-vous le samedi 9 mars, déjà, coché dans vos calepins. Eh bien, il y a 15 bibliothèques qui seront concernées, avec à chaque fois 1 ou 2 comédiens qui iront créer un spectacle le matin à 11h pour le jeune public, puis à 15h pour les adultes, et puis le soir, une sorte de cabaret poétique et musical. Et l'idée, c'est de propager, partager plutôt la même parole poétique au cours d'une même journée dans 15 lieux différents. Voilà, c'est ça cette heure du poème qui me tient tant à cœur.
On aura l'occasion d'en reparler. On va écouter un peu de musique et je vais vous demander de nous lire quelques poèmes alors.
D'accord. Edith Azam. Anna est un oiseau. Anna est, je l'aimerais, Anna, être son nid. De très longs arbres bordent la Seine et moi je fais des ronds dans l'eau en attendant qu'elle se souvienne. Don't forget me not. Mais s'en fout bien, Anna, sans doute. Et je me doute bien qu'elle s'en fout. N'empêche, Anna fait mon oiseau. Et moi, clouée au sol, j'agite fort les bras pour me plumer des ailes à cet épouvantail. Ma carcasse. Anna, ce qui me fait silence. Si tu savais, Anna, la lourde plaque que soulève un oiseau volé en plein ciel. Alors les yeux baissés, je plonge dans la Seine. Imagine qu'un jour, tout ce que j'imagine. Anna, j'ai les mains qui s'agitent et ça me court partout. La fissure. J'ai peur, si peur. Comme je tremble, j'entends un craquement qui contamine mon langage. Mes insomnies. Je les passe une à une à me cabrer la tête. Chute de mots partout, toujours les os qui grincent. La faille avance, inéluctable. Mon corps ouvert manque d'espace. L'air est hirsute, je suis en deux. Et m'étonne à nouveau de savoir que j'existe. Aimer justifie ça et m'ajuste. Anna m'efface, Anna me fait le couteau dans le cœur, le vent dans les poumons et l'éclair sur l'épaule. Petit Bezos volé à Norge. À l'intérieur, mes sauts de singe qui se crochent tombent tout seuls d'une illusion à l'autre. En un seul jour, Anna, elle me dépiote tout le corps, m'essore le vocabulaire et ça me fait trembler. Pour elle, j'ai planté un marronnier dans ma cervelle,
un des plus grands, pour 1000 hivers, et qu'elle puisse avoir des racines. Anna, Anna, my Ozotis, don't forget me, don't forget. Moi, je n'y parviens pas, non, je ne parviens pas à m'éteindre. Anna, la vie, c'est à hurler, et hurle fort cet oiseau-là, à me tordre les os de la tête. Mon corps, j'en vois l'usine, je vois bien tous ces mots qui me pèsent des tonnes. Arrache-moi, arrache-moi, Anna, cette langue de terre. Fais-moi sortir un peu du sol, que tout ne soit pas pour la casse, que cette course vers le vide m'épuise, vers un mieux. La vie, c'est de la paille. On fait un feu avec qui ne brûle que pour nous, qui ne brûle que nous. Et puis après, juste merci, Anna. Tu m'arraches les mots que nul ne sait bien vivre. Une autre jeune femme poète, Alban Gelé, qui a sorti un livre qui s'appelle « Pelote, averse, miroir ». Si la pluie trop balaie les rues, ce sera jour à traverser le fleuve et deux îles, aller vers des abris, certains et calmes. Une seule aiguille fera ses tours de cadran pendant que loup, sous des cascades, pendant que nous, nos décollages. De toute façon, j'attraperai ce que tu lances. Tu reviendras. Je suis chevreuil, oiseau de juin. Je suis, nous sommes, une guirlande. J'évite les pièges. Est-ce que tu saignes ? Pointe des pieds, cerise verte, je reprends ma respiration parmi les arbres d'une forêt. Je me relève des accidents. Verrons-nous les mondes de la nuit se lever, remuer la terre des chemins, traverser quelques plaines, vivre enfin rassurés de sentir notre sommeil profond? Serons-nous d'un quelconque secours à quelqu'un? À quelque chose. Asseyons-nous dans l'herbe. Les questions s'arrêtent. Chère brindille, as-tu été secouée? Est-ce que tu t'es envolée? Tu frôles l'invisible et je résiste à la tentation de t'emmener. Tu voyages seule? Un poème de Hamid Tibouchi, à main nue. Tout ce que je fais, la poésie l'exige. Je le fais à main nue. Je veux toucher le corps des choses. Je veux palper la chair des mots. Je veux sentir le cœur de l'arbre. Je veux éprouver l'essence de ce qui est. Peu importe les épines de la rose, les morsures de thuya, les piqûres d'insectes. Que m'importent les brûlures de la neige si je peux toucher au mystère de sa blancheur. Si je veux pénétrer le froid qui la fonde, je dois me laisser transpercer par lui. A-t-on besoin de gants pour caresser ta peau, invisible poème qui parle d'une voix claire, à la main nue, ouverte, tel un œil exercé à lire dans la nuit noire? Jacques Prévert, extrait de Parole. J'en ai vu un qui s'était assis sur le chapeau d'un autre. Il était pâle, il tremblait, il attendait quelque chose, n'importe quoi, la guerre, la fin du monde. Il lui était absolument impossible de faire un geste ou de parler. Et l'autre qui cherchait son chapeau, était plus pâle encore, et lui aussi tremblait, et se répétait sans cesse « Mon chapeau, mon chapeau !» Et il avait envie de pleurer. J'en ai vu un qui lisait les journaux. J'en ai vu un qui saluait le drapeau. J'en ai vu un qui était habillé de noir. Il avait une montre, une chaîne de montre, un porte-monnaie, la Légion d'honneur et un pince-nez. J'en ai vu un qui tirait son enfant par la main et qui criait. J'en ai vu un avec un chien. J'en ai vu un avec une canne à épée. J'en ai vu un qui pleurait. J'en ai vu un qui entrait dans une église. J'en ai vu un autre qui en sortait. Urgence de Christophe Jubien. Elle fouille dans mon cerveau à la recherche du début d'une idée, mais ne trouve rien qui vaille. Elle regarde par la fenêtre. Un oiseau passe dans le ciel gris, trop au large pour être sifflé. Alors elle revient vers moi, plus impérieuse que jamais. Je lui demande de se calmer, de revenir plus tard, mais elle insiste, s'affole, prétend qu'elle perd les os. C'est pourtant pas sorcier. Elle voudrait juste s'allonger sur une feuille blanche et faire son petit. Après, elle s'en ira, promis, sur la pointe des pieds, mon envie de poème. Un poème inédit de Cécile Coulon. Alors, Cécile Coulon, c'est elle qui a eu le prix Apollinaire 2018. Pourquoi écrire un poème ? C'est pour le chauffeur de taxi. Il a conduit toute la nuit. Des gens se sont aimés sur la banquette arrière. Des amoureux chuchotaient « Oui, encore, s'il te plaît !» La radio couvrait leur voix, mais il entendait quand même. J'écris pour savoir si cet homme a quelqu'un qui lui dit « Oui, encore, s'il te plaît, n'oublie pas que je t'aime !» J'écris pour l'agriculteur. 5 heures du matin, bottes sales, café chaud. Ces vaches font chanter leurs cloches en traversant la route. Elles sont belles comme des anges. Leurs yeux sont des étoiles quand elles passent devant la grange. J'écris pour ce regard-là, dans cette vallée profonde. J'écris pour la femme de ménage au 14e étage. Elle renverse des poubelles et dans l'immeuble d'en face, une autre femme la regarde nettoyer, la reine des traders, des avocats et des cadres supérieurs. J'écris pour accompagner le torchon qu'elle passe 100 fois sur les écrans d'ordinateur. J'écris pour l'infirmière qui aide quelqu'un à passer de l'autre côté. Ce n'est jamais facile, mais elle sait que certaines lumières ont plus d'éclat une fois éteintes. C'est pour les dernières fois qu'on fait l'amour, alors que l'on pensait que ça durerait toujours. Les amis, les films et les romans nous avaient pourtant prévenus. Non, ça ne durera pas. On se croyait plus fort et nous ne l'étions pas. C'est pour eux, mais surtout c'est pour toi. Je me couche dans ta vie comme un chat dans un rayon de soleil. J'écris pour te dire que je prends le risque de t'aimer. J'accepte d'être si atrocement, si humainement vulnérable à tes côtés. C'est pour eux, mais surtout c'est pour toi. J'écris parce qu'ici, tout va bien, sauf que tu n'es pas là. La Trappe-Rêve, un poème de Michel Butor. Dormir avec toi, retrouver au moindre sursaut ton épaule, entendre ta respiration, mesure du temps qui me reste. Reste encore un peu près de moi, console-moi de ton absence. Toutes les saisons de ta vie tiendront la roue de mes années. Tant d'autres fantômes défilent dans les corridors du sommeil. Encore te voir et t'entendre, suivre tes conseils, obéir à tes subtiles suggestions dans mes hésitations voraces. Moi qui suis si sec et si raide, cherchant à maintenir le masque sans lequel je m'effondrerai. Tant d'autres fantômes défilent dans les corridors du sommeil, montant, descendant sans répit les ascenseurs de la mémoire. Dominique Sampiero, ça s'appelle « Nudité de la blessure ». Certains dimanches d'hiver, la pluie tombe d'un coup, avec la nuit sur la vitre, et tout ce que je ne sais pas cogne. Par exemple, écrire un poème, un seul, capable de tenir le monde plus haut dans la splendeur. Alors j'ouvre la fenêtre. Pas celle devant moi, non, plutôt l'autre, invisible, qui donne sur un jardin de velours noir. Tout ce que je ne sais pas fraîchit, me saisit à la gorge, danse comme une femme venue offrir ses seins à mes lèvres avides. Puis je rêve de prendre Dieu sur mes genoux, de lui parler comme un enfant, et qu'enfin il m'avoue ses faiblesses, ses disparitions, et qu'enfin il me parle du néant, de ce qui jamais en moi ne cède et qu'il se laisse aller aux confidences. Je rêve d'entendre Dieu me dire pourquoi la lumière est si forte au-dedans et pourquoi je pourrais marcher sur le monde les yeux fermés, de me montrer aussi ce qu'est l'âme, que je puisse jouer avec elle comme avec une balle. J'éteins tout cela à coups de cigarette, je le brouille, je l'enfume, gavant ma bouche de saveurs qui ne m'emplissent jamais. Je grossis, je maigris, je cours, je marche en tous sens. Certains jours, je suis vivant. Je voudrais tuer la lumière, parler cru, comme autour de moi les gens que je vénère, et dont la vérité est aussi forte que la sève nouée des arbres.
C'était, eh oui, la différence avec moi, hein, lorsque je lis des poèmes, et Marie Poumara, comédienne extraordinaire, dont vous pourrez écouter les lectures, ainsi que celles de Pauline Marot et de toutes les héroïnes de la caravane des poètes, simplement vous tenant au courant des voyages de cette caravane à travers toute la région, mais bien au-delà. Il suffit tout simplement de taper « caravane des poètes » sur votre moteur de recherche et vous tomberez sur le site qui vous donnera toutes les informations souhaitables sur les spectacles de la caravane des poètes. Voilà, ben je vous propose d'écouter à présent de la musique et après, ben nous retrouverons nos amis chroniqueurs, en premier lieu Jacques Morin.
Quand tu descends de ta maison, le bois de terre et de jour au bout du monde, au pays de lumière, ferme les yeux, pense à la chanson qu'il te chantait. Dans le vent, la poussière, sur cette route de terre qui fait le tour de la terre, sur cette route où il n'y a jamais d'hiver, c'est pas saison, il reviendra, y a pas de raison, du bout du monde, que dans la lumière, sur cette route de terre.
Thank you.
La magie de Gérard Manset opère toujours. C'était La route de terre, extrait de l'album L'atelier du crabe. L'heure est venue sur La route inconnue, votre magazine de Radio Grand Ciel consacré à la poésie vivante, de retrouver la chronique de notre ami Jacques Morin, directeur de publication de la revue trimestrielle de poésie Décharge, notre principal partenaire.
Revue du mois numéro 52. Cette fois-ci, c'est donc la revue Spered Gouez numéro 24. Je dis la poésie tout en étant conscient de son absurdité apparente vis-à-vis du réel et en même temps touché par sa splendeur, son inertie et sa force face aux atrocités que provoquent ou subissent les hommes. Cette phrase est extraite d'un entretien de Salah al-Hamdani avec Eve Lerner. On apprend que le poète irakien a été emprisonné et torturé à l'âge de 20 ans pour avoir refusé de se battre contre le peuple kurde. 3 ans plus tard, c'est l'exil en France où il va devenir acteur. Il se rendra à Bagdad 30 ans plus tard à la mort de Saddam Hussein. Il continue à affirmer « Je n'aime pas les dogmes et les discours ». Ensuite, c'est Louis Guillou, l'auteur de « Le sang noir » qui est évoqué par Yannick Pelletier. « Je me suis toujours senti solidaire du peuple breton tout entier », écrit ce natif de Saint-Brieuc. Denis Audrey, Gérard Cléry et Marie-Josée Christian donnent chacun leur point de vue complémentaire sur le dernier livre de Brigitte Maillard. Marie-Josée Christian puis Guy Alix chroniquent pas mal de recueils qui ont paru dans l'année. Pour suivre, MJC critique 6 revues d'ici, c'est-à-dire de Bretagne, puis une douzaine de revues d'ailleurs. A noter que Spered Gouez est une des seules revues à être aussi attentive à ses consoeurs, ce qui n'est pas la chose la mieux partagée dans le petit monde des revues. Jean Bescon, dans le rapport entre Georges Brassens et Armand Robin, après avoir analysé l'image de l'un dans les écrits de l'autre précédemment, inverse la chose en décryptant la chanson « Bécassine », ce qui est passionnant pour qui connaît les paroles de Brassens. D'autres critiques ensuite signées Pierre Tanguy, Eliane Biderman, Gérard Cléry, Bruno Genest, Patrice Perron ou Jacqueline Saint-Jean. Ensuite, dossier Jeannine Baude. Marie-Josée Christian fait bien le tour de cette écriture très étendue, ouverte sur le récit mais aussi sur la poésie en prose ou la poésie plus contrainte. Ouessant, New York, Venise, la palette est large. J'écris avec mon corps, je marche avec mon esprit. La citation tombe à pic car elle correspond au thème très riche du numéro « sans, dessus, dessous ». Les 5 sens et le sens, l'émotion et l'intelligence. La poésie est nichée là. Une trentaine d'auteurs s'y sont essayés. Marie-Claude Bourgeon avec un texte très fort intitulé « Goule ». Patrice Perron donne plusieurs exemples de personnes privées de sens pour différentes raisons et rappelle l'histoire de Jean Cassou, prisonnier qui mémorisera ses sonnets plutôt que de devenir fou. Louis Berthelhomme s'en prend aux découteurs de poésie, Gérard Mottet, et tu penses avec ton cœur. Jean-Luc Lecléache met en exergue le sens du toucher. Flora de Lalande, l'odorat. Colette Gibelin, Louis. Chantal Couliou parle de grands tatouages de tendresse. Gérard Cléry évoque la malaventure. Meredith Le Detz donne une prose fantastique. Femme à l'hippocampe. MJC, notre tête n'entend plus ce que nos pieds découvrent. Guy Alix, tu pars en quête de ce que tu ne sauras pas. Jacqueline Saint-Jean, et je sens ma vie se dissoudre dans l'inaperçu. Jean-Marc Goujon, parfois, au milieu de la confusion, la peau voit ce que l'esprit ressent. Spered Gouez demeure une revue riche, complexe et complète. Et Marie-Josée Christian, la responsable de rédaction, écrit dans son éditorial que la continuité est nécessaire entre la créativité d'aujourd'hui et l'héritage de nos prédécesseurs, ce qui est bien le trait d'union que réalisent les revues. 150 pages, 16 euros, bon de commande à télécharger sur le site de Spered Gouez. http://SperedGouez.com www.monsite-orange.fr. À la prochaine fois.
Et bien désormais, ce sera pour la dernière semaine de l'année, la semaine 52, si mes souvenirs sont bons. Je vous propose à présent de rejoindre Louis Dubot, éditeur naguère au Dés Bleus, poète, bien évidemment, poète bien connu, chroniqueur sur la revue des charges et chroniqueur depuis maintenant bientôt 2 ans. Dans cette émission de La Route Inconnue, je vous propose de découvrir sa chronique sans plus tarder.
La poésie Godot est de plein pied avec les gens. Ouvriers et paysans, employés et ingénieurs, chômeurs et commerçants, enseignants et éboueurs, bibliothécaires et éducateurs de rue, migrants et retraités, dans leur travail, leurs loisirs, la tragédie quotidienne ou la comédie absurde de l'existence. Georges Godot, né en 1921, mort en 1999, fait tenir en 8 ou 10 lignes ineffables ce que les analystes chevronnés de l'Express, de l'Observateur ou du Monde n'atteignent, et pas toujours, qu'en 3 ou 4 colonnes, écrivait à son propos le linguiste Georges Mounin, qui ajoutait « S'il avait été grand reporter, il serait mondialement connu. » Seulement voilà, Godot est un poète. Alors que les marchands de soupe médiatiques engraissent les courbes de l'audimat, les petites proses sèches de Godot nourrissent notre faim d'humanité pour la faire grandir un peu plus. C'est quand même pas pareil. Et pour preuve, 6 poèmes de Georges Godot, sans autre commentaire. Ma mère et mon père, la nuit quand mon père et ma mère se battaient, je cachais d'abord la tête sous les draps, puis, à bout de force, je me dressais dans ma longue chemise et je criais. Ils n'étaient pas méchants. Ils se précipitaient, me consolaient, et je m'endormais dans les bras de l'un ou de l'autre, parfois dans leurs mains rejointes sous mon corps moite. Je me rappelle, ils se regardaient comme 2 enfants malheureux. Les petits voyous s'en vont à l'école. Ils ramassent des cailloux pointus pour rayer les voitures. Les plus belles, le plaisir est plus fort. Les pardessus des petits voyous sont trop courts. La mère est manœuvre à l'usine. Elle taille dans les vieux effets entre 11h et minuit. La baraque est froide. Ses doigts sont gourds. Les enfants sont couchés dans le même lit. Ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre la misère. À force, la misère, elle met des pierres dans les mains. Sélection. Ils ont moins de 20 ans. Ils sont seuls dans un champ de blé. Lui est à genoux. Il broie dans sa main le plus bel épi. Elle se penche sur lui pour voir de plus près. Tête contre tête, ils parlent doucement de terre, d'engrais et de semences. Ce sont aussi des mots d'amour. Les mots magiques. L'ingénieur de l'usine a les cheveux en brosse et 25 ans. Sa chambre d'hôtel est jonchée de graphiques. Il parle de fission, d'isotope, en anglais et en russe. Isotope, personne ne connaît. Il n'a pas de poste de radio. Chaque matin, au charcutier, il demande les nouvelles du monde. Depuis quelques jours, le marchand moqueur est prudent. Il a lu quelque part que les fusées capables de détruire toutes les charcuteries de la Terre avaient un rapport avec les isotopes. L'ingénieur a grandi, mais il devient suspect. Le moment vient d'écrire lisiblement, s'enfuir. Certain de l'acte clair, réfléchi, orienté, du pied posé à plat sur la neige dure, puis l'autre, et ainsi de suite. Afin de retrouver les traces au retour, d'être toujours d'accord et content de la voie choisie. Le vol le plus fugitif est net, pur, et l'écrire vite n'a pas de sens. Chaque mot, juste, est lourd comme une balle pour gros gibier. Qu'il se détache sans bavure, qu'il s'élève, se maintienne seul, bleu, sans le moindre doute. 50 mots tranquilles font une montagne. Quand j'écris, mon chien est couché derrière moi. Il sait quand je peine et se méfie de ma chaise qui roule et recule pour rien. Parfois, quand elle pivote, que je dis « elle est là », que je siffle et chante, il se met sur le dos et je lui gratte le ventre le temps qu'il lui plaît. Après, il se recouche et ferme les yeux, content. Mon chien aime la poésie qui va bien. Les livres de Georges Godot, publiés dans la collection Le Dé Bleu, sont en principe disponibles aux éditions À Propos, 2 rue Frédéric Clément, 92 380 Garches, téléphone 01 45 31 79 28. Les éditions ont pignon sur rue à Paris, dans les locaux de l'ex-librairie José Corti.
Judicieux conseil que celui de Louis Dubos, il faut lire et relire Godot pour ne pas oublier quel poète il demeure. Je vous propose à présent d'écouter un peu de musique, après quoi nous aurons rendez-vous avec notre ami Jean-Claude Touzeil et son clin d'œil malicieux.
Sugar and spine, I feel nice. A sugar and spine, so nice, so nice. I got you. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine. So nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good. So good, so good, but I got you. So good, so good, I got you.
Vous aurez reconnu le roi de la soul music, James Brown, qui joue pour la première fois sur la route inconnue. Nous le saluons en passant. C'était I Got You, mieux connu sous le nom de I Feel Good. Avant de céder la parole à Jean-Claude Touzeil, qui a le redoutable privilège de conclure la présente édition de la route inconnue, un poème, un coup de cœur qu'un ami m'a transmis par courriel. Cet ami, c'est Éric Godichaud, qui est l'auteur du cabinet de curiosité. Si vous êtes abonné à la revue des charges, vous connaissez ce livre, puisqu'il fut édité en polder il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Le texte de Éric Godichaud s'intitule « Le pantalon jaune » et pour moi, c'est un coup de cœur. Le soleil peut être portatif. Enfermé dans une lanterne, Il fait craquer les volets, diffuse au milieu d'un champ fleuri le parfum du séchoir à tabac. À chaque petit jeu tiré par l'organiste, le croc morne nasillard à souhait, un pantalon prend la couleur, la profondeur d'une flaque. On ne connaît qu'un exemplaire de ce pantalon dans un musée fantôme inconnu. Le veilleur de nuit est le seul à posséder les clés. Traversant la vitrine, le vêtement brille aussi translucide qu'un nuage crevé par un oiseau de verre. Magnifique, le pantalon jaune de Éric Godichaud. Voilà, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Il me reste donc à vous saluer et à céder la parole à Jean-Claude Touzaï pour son petit clin d'œil mensuel, son coup de cœur. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve dans 15 jours sur la route inconnue.
Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire 2-3 poèmes de Katiko. Je prends l'actualité au rebond. C'est une enseignante, poète de la région de Grenoble, qui vient de gagner le prix Joël Sadler 2018. Voilà, donc je démarre. Maîtresse poète-poète est une maîtresse sans cartable. Elle n'en a pas besoin. Elle se sert du soleil et de la lune pour t'apprendre à lire la langue de ton cœur. Elle n'a pas de logis non plus. Elle préfère chaque nuit dormir à la belle étoile. Le travail de maîtresse poète-poète est très simple. Elle te répétera tous les jours, à chaque instant, que tu es le meilleur de toi-même, tout le temps, pour toute ta vie, à l'infini. Le bonheur en plein cœur, c'est ce qu'elle attend de toi. Elle ne donne jamais de notes. Elle préfère les étoiles. Si c'est tout juste, une étoile. Si c'est tout faux, une étoile. Si maîtresse poète-poète est en retard, c'est qu'elle a une bonne raison. Elle a sans doute rencontré un arbre qui voulait bavarder. Elle a redoublé 7 fois avant d'être maîtresse. Elle a rencontré une forêt qui avait besoin de parler. Le surdoué en poésie. Le surdoué en poésie n'a pas de chance. Il n'écrit aucun poème à l'école et on le classe d'emblée chez les élèves en difficulté. Mais il s'en fiche, il continue à écrire des poèmes dans sa tête. Les préférés de maîtresse poète-poète sont bien sûr les surdoués en poésie, c'est-à-dire tous les élèves. Et troisième, qui sera l'an prochain sur une des balises du Chemin des Poètes de Durcé. Conseil en traduction. Apprends la langue des arbres. Si une feuille tombe, juste au moment où tu passes, c'est que l'arbre te dit « bonjour ». Si une deuxième feuille tombe juste après, c'est que l'arbre te dit « je t'aime ». Si aucune feuille ne tombe, c'est que c'est un arbre timide. Voilà pour Katiko, donc au prochain printemps d'Ursay en avril 2019. Et comme d'habitude, je terminerai avec un petit poème, extrait des tweets du Pinson. J'ai oublié de dire que pour Katiko, son best-seller, pour l'instant, c'est « Maîtresse poète-poète » publié chez Gros Texte. Alors, Normande. Il pleut des violons, il pleut des guitares, il pleut des nœuds coulants, des pendus, des contrebasses, il pleut des cordes. Il pleut des vouges, des lances, des piques, des arcs et des flèches, il pleut des hallebardes. Il pleut des prunes et des amandes, des fruits défendus. Il pleut des contredanses. Il pleut des coups de poing, de pied, d'état, de force. Il pleut des bombes et des obus sur les tombes des soldats inconnus. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.
Étaient là, ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà,
c'est une latine de Manhattan, de la résine.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo de te quiero mucho et de cafard. Une sauce mela, c'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa,
c'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet des hauts en bas qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. Rebaleto. Serrée contre mon cœur, malgré la mort qui rôde, chuchote en quelque chose à son chauffeur. Y'en a marre des palaces, elle s'en va faire des passes pour le panard. Je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir.
C'est une latine de Manhattan, de la résine.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa.